Europe 1.
. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, autour chaque après-midi de trois personnages issus d'époques différentes mais partageant un point commun. Aujourd'hui, celui d'avoir un jour complètement changé de métier, à l'instar d'ailleurs de celui qui co-anime cette émission avec moi et qui, avant de devenir le célèbre présentateur de Secrets d'Histoire et le respectable Monsieur Patrimoine du gouvernement, fut dans une autre vie DJ pour Soirée Libertine.
Bonjour Joinville Le Pont, bonjour à tous.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et vous faisiez quoi avant Mathieu?
Vous voulez dire avant Mythomane?
Oui.
D'abord rien, c'est une vraie vocation chez moi depuis l'enfance.
Eh bien, eux ont changé de voie en cours de route. Ce sont nos personnages du jour. Je vous parlerai d'abord de Léon Blum. Avant d'être la grande figure du socialisme et l'initiateur des congés payés, Léon Blum, voyez-vous, était écrivain. Et il a côtoyé ceux qui deviendront des grands noms. Marcel Proust, André Gide, Jules Renard, quand lui fera le sien en politique des années plus tard. Puis, ça vous gratouille ou ça vous chatouille?
Je dirais que ça me gratouille plutôt.
Cette réplique restée célèbre du docteur Knock, et c'est évidemment le comédien Louis Jouvet qui l'a interprété. Avant d'être sur les planches, eh bien imaginez-vous, Louis Jouvet était pharmacien. Mais la passion de la comédie l'a très vite démangé, vous verrez. Quant à vous Mathieu, vous nous parlerez d'un autre personnage célèbre qui, avant d'exercer la fonction pour laquelle tout le monde le connaît, a exercé un tout autre métier.
Tout à fait, Stéphane. Le pape François, Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom.
Mais vous me promettez, vous n'allez pas blasphémer quand même.
Disons que, comme vous, Stéphane, je peux le jurer sur ce que vous avez de plus cher. C'est comme ça que vous jurez, je le rappelle
oui,
à nos auditeurs.
Absolument. Et avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Et je vous entraîne aujourd'hui dans l'intimité d'un homme dont on commémore le bicentenaire. Il était né le 13 janvier 1821. Je pense que son nom ne va rien vous dire. Il s'appelait William Chanet. C'était pourtant un homme qui était le champion de la bougeotte professionnelle, mais c'est surtout son fils qui fut le champion de la bougeotte professionnelle, parce que William Chanet, c'était le père biologique de l'un des plus grands écrivains américains, Jack London. 200 nouvelles, une cinquantaine d'ouvrages, c'est Cro-Blanc, Martin Eden, voilà. Et ce père, qui n'a jamais reconnu son fils, il a quand même transmis ce virus du changement de métier que lui-même avait manifestement contracté. Vous verrez, c'était un curieux personnage.
Avec nous également, Stéphane, le trépidant David Castello-Lopez. Bonjour David.
Bonjour.
Chaque jour, l'origine d'une invention. Aujourd'hui, une invention qui nous rappelle notre jeunesse, Stéphane, l'époque où on allait dans les auberges de jeunesse.
Oui,
tout à fait.
Ah, dans les auberges de vieillesse.
C'est vrai que ça le sac de couchage.
Oui, ça date de quand?
Ça date de quand?
Ah, c'est le sac de couchage.
On le saura. Non, c'est pas le sac de couchage,
c'est
les auberges de jeunesse.
En fait, ah, le sac de couchage, oui, c'est
d'autres sujets.
C'est les villages de tente.
C'est ça pas peut aller avec.
Mathieu a dit qu'il nous était très utile quand on allait dans les auberges de jeunesse.
Oui,
c'est les auberges de jeunesse elles-mêmes.
C'est genre un sujet.
Il y avait des lits, mais il fallait amener son sac.
Exact.
Et puis, avec nous, Olivier Pouls.
Évidemment,
le monsieur gastronomie de l'émission.
Oui, ben on les a aimés, on les a détestés, on les aime à nouveau. Ce sont les légumes oubliés, entre guillemets, c'est les topinambours.
Mais parfois, il y avait des raisons pour lesquelles on les oubliait.
Il y avait d'excellentes raisons pour lesquelles ils étaient oubliés, ça c'est
le
vrai.
Panais, vous
alors, fallait-il s'en souvenir ou pas?
Non.
Tel sera le débat. Et puis, je vous raconterai l'histoire de ces légumes.
Très bien.
Enfin, Stéphane, les dernières éditions ont été de véritables boucheries. Hein, la Cour européenne des droits de l'homme a même demandé l'annulation de ce jeu pervers qui, je cite, bafoue la dignité d'un homme censé incarner l'histoire et dont on réalise au fil des défaites qu'il n'y connaît rien. Nonobstant la décision.
J'ai beaucoup gagné. Vous avez
gagné une fois sur 10, ce qui est effectivement
non,
pour vous, selon vos standards, pas mal. Nonobstant la décision de la Cour européenne, nous jouerons une fois de plus malgré tout à Bern to be alive, notre petit quiz. Mais tout de suite, les amis, découvrons le destin de notre premier personnage du jour à avoir complètement changé de métier. Stéphane Bern nous raconte Léon Blum.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes le 13 février 1936, Léon Blum vient de quitter la Chambre des députés quand une foule enragée encercle sa voiture. L'un des assaillants extirpe violemment Léon Blum de sa voiture. Un témoin raconte, l'agresseur, après avoir donné un coup dans les glaces de l'auto, frappa sauvagement Blum. Certains frappaient Blum à coups de pied dans le ventre, d'autres cherchaient à le jeter à terre, où sans aucun doute, ils l'eussent piétiné. « À mort Blum ! À mort Blum !» hurlait-il. La scène est filmée. L'homme politique n'est sauvé que par l'intervention de la police et des passants qui accourent. Mais comment Léon Blum, un jeune homme délicat qui ne rêvait que de littérature, en est-il arrivé là ? Léon Blum voit le jour le 9 avril 1872, au début de la Troisième République, chez un riche commerçant de tissus à Paris. Son éducation est une priorité pour ses parents. Ça tombe bien, le petit Léon Blum est un excellent élève. Au lycée, il décroche le second prix du concours général de philosophie et au baccalauréat. En lisant sa copie, le correcteur déclare à l'un de ses collègues « Si c'est un enfant de 17 ans qui a écrit cela, c'est un monstre ». Vous l'avez compris, Léon Blum en est un. Extrêmement brillant, il prépare le concours de l'École normale supérieure, pépinière des élites françaises, tout en collaborant à une petite revue d'apprentis écrivains, La Conque. Car la passion de Léon Blum, voyez-vous, c'est la littérature. Il y consacre tant de temps qu'après avoir été accepté à l'École normale supérieure, il finit par être renvoyé pour manque d'assiduité. En 1893, il réalise un rêve en intégrant la revue Blanche, une revue littéraire à l'intérieur de laquelle on trouve toutes sortes de chroniques ou de critiques. Léon Blum y côtoie les grands écrivains qui montent, Tristan Bernard, Marcel Proust, Jules Renard ou encore Charles Péguy, et se noue d'amitié avec un certain André Gide. Leur passion pour la littérature les rapproche tant que les deux hommes correspondront toute leur vie. Je vous lis une phrase extraite d'une lettre de Léon Blum à André Gide. « Il m'est doux et précieux de penser que tu as fait plus cas de moi au fur et à mesure que nous vieillissons l'un et l'autre. » C'est beau, vous ne trouvez pas ?
C'est magnifique, j'espère que vous écrirez la même chose à mon sujet en quelques années.
Mais vous ne faites pas de littérature. À quoi ressemble-t-il d'ailleurs à cette époque, notre Léon Blum ?
Ah oui, tiens.
Il est mince, brun, grand, toujours élégant. On peut le voir sur certaines photos, cravate à large nœud, gilet croisé et fleur ouverte à la boutonnière. En y regardant de plus près, on peut lui trouver une certaine ressemblance avec Marcel Proust. Ce n'est pas étonnant puisque les deux jeunes hommes, bien qu'ils ne soient pas amis, côtoient les mêmes cercles. Marcel Proust, par ailleurs, ne semble pas manifester un grand respect pour les qualités intellectuelles de Léon Blum. Lorsqu'il est exaspéré, il lui arrive de dire à son interlocuteur « Vous êtes aussi bête que Léon Blum. » Pas très sympa. Mais son attitude change dès que Léon Blum devient un critique littéraire reconnu. Marcel Proust cherche alors plutôt à s'attirer ses bonnes grâces. Pendant une vingtaine d'années, les critiques littéraires, puis théâtrales de Léon Blum, dans divers journaux, la Revue Blanche, nous l'avons vu, puis L'Humanité, Le Matin et bien d'autres, font sa réputation. Ses chroniques ne sont jamais malveillantes et trouvent toujours des raisons d'espérer dans les pires fours. Sa disponibilité, son bon sens font de lui une personnalité en vue du monde du théâtre. Il aide les uns dans leur démarche vis-à-vis des pouvoirs publics, conseille les autres, comédiens ou dramaturges, dans leur choix de carrière.
Et un peu le Jean-Marc Dumonté de l'époque, Stéphane.
C'est un peu ça, oui.
Ah, c'est ça.
Oui. Mais enfin, en même temps, Jean-Marc n'écrit pas Jean-Marc Dumonté.
C'est vrai, c'est la seule différence entre Jean-Marc Dumonté et Léon Blum.
Non, il y en a d'autres. Mais exercer le métier de critique, c'est aussi se faire quelques ennemis.
Ah.
En 1911, Léon Blum a des mots très durs pour une pièce de l'écrivain Pierre Weber. Lorsqu'ils se croisent, ce dernier gifle Léon Blum et le provoque en duel. Léon Blum choisit l'épée comme arme, touche et blesse Pierre Weber. Le combat est arrêté, mais cela montre une chose, c'est qu'il ne faut pas trop chercher le critique. Léon Blum écrit lui-même plusieurs ouvrages, dont en 1914 une biographie de Stendhal qu'il vénère. Hélas, le succès n'est pas au rendez-vous. À 35 ans, Blum publie aussi un essai intitulé « Du mariage », prônant l'expérimentation sexuelle pour les femmes avant le mariage. Un vrai scandale dans la société bourgeoise de l'époque. Ceci dit, c'est un peu « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Car pour sa part, Léon Blum a préféré épouser une jeune femme de bonne famille, Lise Bloch, très certainement pure le jour de leurs noces. Follement amoureuse de son époux, la pauvre Lise souffrira de ses infidélités. Si Léon Blum est épris de littérature et se fait un nom comme critique, Blum a l'âme d'un justicier. Une autre facette déterminante de sa personnalité. C'est ce sens de la justice qui le pousse à militer quand éclate l'affaire Dreyfus. La terrible affaire qui divisa la France. En 1894, le capitaine de l'armée française, Alfred Dreyfus, juif d'origine alsacienne, comme Léon Blum d'ailleurs, est accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets. Un conseil de guerre le condamne au bagne à perpétuité pour trahison. Léon Blum, qui à l'époque dirige la Revue Blanche, prend la défense de Dreyfus. Il s'agit de sa première entrée en politique et ce ne sera pas la dernière. C'est une femme aussi qui va le pousser à changer de carrière. Léon Blum tombe sous le charme de Thérèse Pereira, une fougueuse socialiste qui réveille son ardeur politique. Je précise que Léon Blum est toujours marié à son épouse Lise et que les deux femmes en souffriront terriblement. D'abord proche de Jean Jaurès, Léon Blum devient en 1914 chef de cabinet du socialiste Marcel Samba. Rapidement, il s'impose comme le nouveau visage du Parti socialiste, mais une vague d'antisémitisme submerge l'Europe. Léon Blum, qui est de confession juive, rappelons-le, en pâtit cruellement. Le 13 février 1936, sa voiture croise en plein Paris des militants d'extrême droite qui le reconnaissent et le rouent de coups en hurlant « à mort Blum ». Aussi violente est son interpellation à la Chambre des députés le 6 juin qui suit, alors qu'il vient d'être élu président du Conseil. Le député de l'Ardèche, Xavier Valla, de sinistre mémoire, lance cette terrible pique. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif. Mais ni cette remarque antisémite, ni rien ne peut entamer la détermination de Léon Blum. Dans la foulée de son élection, il conduit d'importantes réformes, comme la réduction du temps de travail, la fixation d'un salaire minimum, et évidemment, ce pourquoi personne ne l'a oublié, les premiers congés payés. Mais des dissensions apparaissent au sein de son gouvernement et Léon Blum démissionne après un an au pouvoir seulement. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Léon Blum tente d'agir en votant contre l'octroi des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, mais la majorité des parlementaires sont hélas pour. Pétain, propulsé à la tête de la France, fraternise avec l'Allemagne nazie. Léon Blum est arrêté puis déporté au camp de concentration de Buchenwald. Libéré à la fin de la guerre, Blum devient président du gouvernement provisoire de la République française avant de quitter la scène politique pour se consacrer à celle qu'il a toujours aimée, l'écriture. À sa mort, le 30 mars 1950, des obsèques nationales sont organisées. Son éloge funèbre est prononcé par le président de la République, Vincent Auriol, en présence de nombreux hommes politiques. L'un d'entre eux, Émile Bure, déclarera ce jour-là: il est mort comme tous les journalistes voudraient ou devraient mourir, la plume à la main.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Léon Blum, nous sommes avec l'avocat, ancien conseiller d'État et ancien secrétaire général de la présidence de la République, Frédéric Salabarou, qui lui consacre son nouvel ouvrage qui paraît aujourd'hui même. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Bonjour Frédéric Salabarou. Vous publiez en effet Blum, le magnifique, du juif belle époque au leader socialiste aux éditions de l'Observatoire. Leader pour vous, Blum l'a toujours été ou est-ce qu'il l'est devenu ?
Il l'est devenu. Vous l'avez assez justement dit. Blum, c'est d'abord un homme libre. Toute sa vie, il aura placé, et c'est en ça que moi j'ai préféré être dans la logique du portrait, il aura placé l'amour, la littérature avant toute chose, et ensuite il est venu à la politique parce qu'il y avait une force intérieure qui est l'idéal de justice qu'il a toujours animé. Il y a une anecdote qui quelque part résume tout comme souvent au début d'une vie. Il est au Quartier Latin, il est avec André Gide, ils se promènent, ils ont sous le manteau les derniers poèmes de La gloire de l'époque, José Maria de Heredia. Et puis d'un coup, Gide se retourne, Blum n'est plus là. Et il revient avec deux journaux qu'il a achetés à un mendiant. Et il lui dit, tu vois, il ne fallait pas lui donner quelques pièces. Il fallait acheter le résultat et le produit de son travail. C'est une question de dignité. Et donc, on est là dans tout ce qui symbolise Blum. Mmh. C'est-à-dire qu'il a vécu sa jeunesse. Et sa jeunesse, c'était le pari littéraire, la liberté que ça représentait. Mais il y avait déjà des forces profondes en lui, qui étaient ce désir et cette passion de la justice, qui vont, parce que c'est la vie au fil des rencontres et des événements, le conduire à devenir lui-même, c'est-à-dire pas un auteur, ça ne sera pas Proust, ça ne sera pas Gide, mais ça sera Léon Blum et c'est beaucoup pour la France.
On connaît évidemment son magnifique parcours politique. Est-ce que vous diriez qu'il y a quand même une forme de frustration peut-être personnelle chez ce Léon Blum qui voulait devenir un grand écrivain, j'imagine. Est-ce qu'il aurait préféré être un grand écrivain qu'être un grand homme politique, vous pensez ? Ou est-ce que finalement, sur la fin, il était très fier de son parcours ?
Je crois qu'une partie de lui-même aurait voulu être un grand écrivain. Mais ce qui est formidable chez Léon Blum, c'est qu'il n'a jamais été dans la frustration. Il disait « Je vis chaque jour de ma vie comme si c'était le dernier jour ». Et puis, par ailleurs, son parcours est quand même exceptionnel parce qu'il a toujours été fidèle à lui-même. Par exemple, il est à Buchenwald, il est déporté dans un bâtiment annexe. Et Blum, le grand amoureux, va réussir quelque chose qui est complètement insensé. Jeanne, son troisième grand amour, va réussir à le rejoindre et ils vont se marier en 43 à Buchenwald. Et parce qu'on aime la vie, et parce qu'il aime la vie vous le rend toujours. C'est un homme qui était extrêmement sérieux, mais qui en même temps a vécu sa vie. C'est en ça qu'il est probablement un homme politique exceptionnel, un de ces rares hommes politiques qui sera devenu un homme d'État sans vraiment l'avoir voulu.
Lorsqu'il était écrivain et critique littéraire, Blum a côtoyé ceux qui sont devenus, on l'a dit, des grands noms, André Gide et Marcel Proust. Je vais m'intéresser, Frédéric Sadavaro, au cas de Marcel Proust, parce que c'est très intéressant. Marcel Proust ne l'aimait pas vraiment, et pourtant, c'est le critique Léon Blum qui a révélé le talent de Marcel Proust.
Non, Marcel Proust aimait aussi... pas grand monde, en réalité.
Et donc, Est-ce qu'il s'aimait lui-même ? Ça, c'est une vraie question.
Ça, c'est une grande question. Il n'aimait pas grand monde et il avait la dent extrêmement dure. Il l'a eu également sur Blum. On dit beaucoup, Blum était un critique littéraire trop bienveillant. On peut dire ça. Malgré tout, c'est vrai qu'il a été le premier, probablement un des premiers, à se rendre compte quand Marcel Proust publie Des plaisirs et des jours, qui est son premier roman sérieux, qu'il y a un potentiel extraordinaire dans l'écriture de Marcel Proust. Et il écrit, il dit, vous verrez, le prochain livre de Marcel Proust, s'il se donne les moyens de son talent, sera exceptionnel. Donc il le voit très bien, et ça c'est un des grands acquis de Blum, critique littéraire. Et puis très vite, Proust se rend compte que le talent littéraire de Blum n'est évidemment pas le sien, donc il y a cette hiérarchie qui se crée entre les deux. Après, Proust a deux visages. C'est l'auteur extraordinaire qui s'enferme pendant des années et des années pour écrire l'œuvre unique. Mais c'est aussi quelqu'un qui avait des côtés petits et qui attendait, en revanche, de Blum qui fasse des critiques littéraires importantes. Donc Proust, c'est vraiment l'homme aux deux visages. L'exceptionnalité et puis parfois des éléments de petitesse. Voilà, mais la grande référence, malgré tout, celui qui était à la fois son ami et l'auteur qui l'appréciait au plus haut, c'était quand même Gide. Avec la souffrance des écrits de Gide, c'est-à-dire que Gide a eu des écrits d'antisémitisme terribles contre Blum. Et la phrase que vous citiez est intéressante parce que des années plus tard, Gide s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Et dans ses carnets de la période de la guerre, il change de position sur Blum, saluant son courage. Et à ce moment-là, Blum, qui s'était tu pendant toute cette période où il avait souffert de ce qu'avait dit son ami, lui écrit cette phrase magnifique en lui disant « Je suis heureux de tes mots parce qu'en fait, je t'ai retrouvé comme ami. » Et c'est là qu'on voit la profondeur des sentiments chez Blum. Pour Blum, l'amitié était quelque chose d'essentiel, l'amour était quelque chose d'essentiel. Et c'est d'ailleurs des choses qui ne sont pas assez connues de Blum. Blum est probablement le premier des féministes.
Pour lui, vous pensez au livre du mariage ?
Oui, mais il faut mettre ça en perspective. Pour lui, les femmes étaient d'abord des amies, puis ensuite des égales. Et ce féminisme qui repose sur égalité, sensualité pour lui, c'est en ça qu'il y a quelque chose de très sincère et très net dans sa position. Elle va se traduire politiquement. Quand il devient chef du gouvernement, Il fait rentrer au gouvernement trois femmes, dont elles n'ont pas encore le droit de vote, dont Irène Joliot-Curie, qui sera prix Nobel de physique. Donc il y a quelque chose qui fait de lui, et très sincèrement, à mon sens, le premier des féministes.
Et comment vous expliquez qu'on ne relise pas ce livre donc, du mariage aujourd'hui ? Parce que ça a l'air d'être un livre pionnier, quelque part. C'est étonnant qu'il n'ait pas été redécouvert.
Parce que
il est mal écrit.
Non, parce qu'il y a dans le style de Léon Blum quelque chose qui est un peu daté, qui fait livre de l'époque.
Puis l'homme politique l'a emporté sur l'auteur.
Oui, mais c'est d'abord un homme politique. Quand on relit son discours de Tours, du congrès de Tours, c'est pas le lyrisme. Blum, c'est ni un grand auteur littéraire, ni un talent oratoire comme Jaurès. En revanche, c'est une intelligence unique. Ce discours dit tout. Il dit tout des dangers du léninisme et du bolchevisme. Il dit tout de la trajectoire qui va être une impasse de ceux qui décident d'adhérer au bolchevisme. Il dit tout du fait qu'il faut garder la maison socialiste pour l'avenir. Et il dit tout ça avec humanité parce qu'il y a un moment, il dit « Mais mes amis, vous qui allez partir, courir l'aventure, il faut nous garder des mots qui déchirent et des mots qui divisent.
Un dernier mot, Frédéric Salabarou. Qu'est-ce que votre biographie Blum le Magnifique dit de vous? Parce que vous êtes évidemment quelqu'un qu'on associe à Jacques Chirac. Et pourquoi Blum? Pourquoi vous portez ça en vous depuis longtemps?
Parce que j'aime l'histoire et ce personnage qui est à la fois un grand personnage historique et un héros de roman m'a évidemment intéressé. Et puis, il y a une clé d'entrée. Blum était ce que Birnbaum appelle un juif d'État, c'est-à-dire issu de ces familles qui sortant de la misère, n'avaient qu'une idée, c'est projeter leurs enfants dans le savoir, puis le service de l'État en reconnaissance de leur pays. Très modestement, à toute proportion gardée, cette histoire est aussi la mienne. Donc, j'avais aussi une capacité à tirer des fils affectifs pour essayer de faire ce portrait de lui.
En tout cas, j'invite tout le monde à lire votre livre « Blum, le magnifique, du juif belle époque au leader socialiste » qui paraît aujourd'hui même aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Frédéric Salabarou d'avoir
Stéphane
été avec
Bern.
Nous.
Merci.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre. Vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec celle qui aurait toutes les raisons pourtant de se la raconter, mais c'est une nouvelle fois en toute modestie qu'elle va étaler sa science, évidemment, nous écraser de son savoir.
Non, mais,
j'ai nommé Clémentine Bortier-Galtenbach.
Étaler. Ah, oui, on sent
pas
vraiment
tout,
l'amertume.
C'est de l'admiration.
On sent l'amertume du loser au quiz, là. Ah ouais, qui perce.
Bon, attendez, vous voulez nous parler du père, père de Jack London.
Mais oui, ça peut vous paraître curieux, mais cet homme, ça vous paraît curieux, mais c'est le bicentenaire de sa naissance, puis pile poil aujourd'hui.
Nous, on s'intéresse aux gens qui sont entrés dans l'histoire, pas à leurs géniteurs.
Eh ben oui, mais justement, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que parfois, vous avez dans l'ombre des personnes célèbres, vous allez trouver quelqu'un qui aurait aussi mérité d'avoir les feux de la rampe. Et ce qui est amusant, c'est à cette occasion de constater que le grand, immense Jack London, l'auteur de Cro-Blanc, de Martin Eden, eh ben, il ne s'appelait pas du tout Jack London, il s'appelait John Chaney. Et il a été élevé par un monsieur qu'il a adopté, qui lui a donné son nom, mais qui n'était pas son père. Et son vrai père, c'était William Henry Chaney. Et c'est l'occasion de s'interroger, parce que ce William Henry Chaney a eu une vie très aventureuse. Il n'a jamais reconnu sa paternité. Et donc, est-ce qu'on peut transmettre comme ça, dans les gènes, cette espèce de goût de l'aventure, du changement? Parce que le roi de la bougeotte professionnelle, c'est quand même Jack London, comme vous l'allez voir. Alors, son père, lui aussi, il naît donc en 1821. Et il devient garçon de ferme à la mort de son propre père. Donc à 9 ans, il se met à bosser. C'est un rebelle dans l'âme. Et à chaque fois qu'il a la maille à partir avec un fermier qui l'emploie, il s'en va. Et donc à 16 ans, il est déjà passé dans 7 fermes différentes. Il s'en va toutes les 5 minutes. Et dès lors, sa vie durant, il va s'essayer à tous les métiers. Publicitaire, clerc de notaire, avocat, journaliste et puis astrologue. C'est avant tout énergique. Un beau parleur, un homme extrêmement culotté, qui adore parler, qui touche un peu, qui aime bien toucher un peu à tout. Et ce qui est donc extraordinaire, c'est que voilà cet homme, je le disais, qui n'a jamais reconnu et ni encore élevé son fils, qui avant lui a eu une existence extraordinairement riche et aventureuse. Alors voilà, c'est ça la question. Est-ce que le goût de l'aventure, l'appel de l'aventure est dans les gènes, hein? Alors quoi qu'il en soit, c'est dans le cadre de ses activités de spirit, astrologue, qu'il rencontre Flora Wellman, la mère de Jack London. Et ensemble, ils organisent des séances de spiritisme, ils font tourner des tables. Et lorsque Flora se retrouve enceinte, William Chaney lui dit...
Il lui a regardé la lune.
J'en veux pas, je ne veux pas de cet enfant, il n'est pas de moi, il la pousse à avorter, elle ne veut pas. Si, et comme elle est très instable psychologiquement, elle fait 2 tentatives de suicide, elle se tire une balle dans la tête, mais la balle ricoche sur son front, elle est seulement... elle a effleuré sa tempe.
On a failli pas avoir Jack London.
Et Jack London ne s'est pas né. Et donc, lorsque Jack London naît... Il est né le 12 janvier 1867, Jack London. On n'est pas loin de son jour anniversaire aussi. Le père part en courant, il l'abandonne, et William Chaney. Donc John Chaney, c'est le vrai nom de naissance de Jack London. Et après sa naissance, sa mère le laisse complètement tomber. Il est élevé par une ancienne esclave. Heureusement, sa mère se remarie en 1876 avec un très brave homme, John London, qui est un vétéran de la guerre de succession. Il va reconnaître et élever le petit garçon. Et comme il faut pas qu'ils aient le même nom parce qu'il s'appelle John aussi, on l'appelle Jack tout simplement. Mm-hmm. Et voilà comment naît Jack London. Le père aussi, c'est l'époque qui veut ça, ce John London, qui est ancien vétéran de la guerre de Sécession. Sécession, il va être maçon, menuisier à San Francisco, épicier, vigile au port d'Auckland, cheminot, gardien d'école, mais enfin toutefois, rien d'aussi étonnant que le père biologique qui lui était astrologue. C'est quand même des destins professionnels extrêmement chaotiques. Alors, ce William Chanet disparaît complètement de la circulation, mais on lui doit quand même la naissance de l'un des plus grands noms de la littérature universelle. Et bien des années plus tard, Jack London va essayer de rencontrer son père. Il lui dit bah, « Écoute, t'es mon père, naturellement, on se ressemble, etc. » Et l'autre lui dit « Non, non. » Ils se montrent très, très aimables avec lui, il le reçoit avec plaisir, mais il lui dit « Non, je suis pas ton père. » Et sans doute, alors, n'était-il pas en mesure de constater encore à quel point Jack avait hérité de lui ? Car s'il est un homme au monde qui a tout fait, tout expérimenté, tout vécu, c'est bien Jack London dont la vie fut d'une intensité extraordinaire. Entre les docks d'Auckland, où vous savez, le quartier pauvre de San Francisco, il commence à travailler dans une conserverie quand il bosse 14 heures par jour.
Nous raconterons un jour
Que vous le racontiez parce que c'est fantastique. Mais sa fin prématurée, il a été, alors accrochez-vous au bastingage, ouvrier, marin, livreur de glace, distributeur de journaux, ramasseur de quilles dans des bowlings, balayeur de jardins publics, blanchisseur, pelleteur de charbon, tondeur de pelouse, nettoyeur de tapis, pilleur d'huîtres, patrouilleur maritime, chasseur de phoques, concierge, etc. etc. Boxeur, reporter de guerre, vagabond, journaliste, photographe et surtout, évidemment, et avant tout, écrivain et poète. Et lui-même écrivit « J'aime mieux être un météore superbe plutôt qu'une planète endormie. La fonction de l'homme est de vivre, non d'exister. Je ne gâcherai pas mes jours à tenter de prolonger ma vie. Je veux brûler tout mon temps. » Et de fait, Jack London est mort à 41 ans seulement, rongé par la maladie et l'alcoolisme, au sommet de sa gloire, en 1916, après avoir écrit plus de 200 nouvelles, quelques 50 livres, et vécu 1000 vies, répondant ainsi au brûlant impératif auquel nous convie le philosophe Pindare. Mieux on remplit sa vie, moins on craint de la perdre.
Merci beaucoup Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors jusqu'à présent, là j'ai brûlé ma vie, mais j'ai brûlé mes vaisseaux avec le quiz, non ?
Effectivement, Clémentine, vous ne bougez pas comme nos personnages du jour, vous enchaînez un peu deux métiers, journaliste historique, puis dans la foulée, bourreau de Stéphane Bern dans l'épreuve du quiz, ou pour l'accabler encore plus, vous l'avez dernièrement affublé d'un charmant surnom.
Je cherche à mater le saucisson.
Un peu de respect quand même pour Monsieur Patrimoine, le saucisson, franchement.
C'est du patrimoine le saucisson.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'heure de la confrontation a sonné. D'un côté, 77 victoires en 92 matchs, Clémentine Portier-Kaltenbach. De l'autre, 15 petites victoires en 92 matchs, celui qu'elle appelle, non sans mépris, le saucisson, ou parfois aussi
le vieil homme.
Attends, le vieux saucisson. Jouons à Bern to be
alive. Vous êtes le Donald Trump des résultats.
Des chiffres, oui. J'ai autant de précisions sur les chiffres que Donald Trump.
Voilà, c'est
les
ça.
Mêmes sources à peu
merci.
Près. Question numéro 1 pour vous Stéphane, on commence toujours par vous. Dans la nuit du 24 au 25 août de l'an 79 après Jésus-Christ, que se passe-t-il ? C'est l'éruption du Vésuve, ça vous le saviez, enfin du moins j'espère. Les villes de Pompéi et Herculanum sont entièrement dévastées. On a même retrouvé un homme pétrifié dans une position qui laisse peu de place au doute. Il est clairement en train de se masturber. Vrai ou faux ?
Je ne crois pas, je crois... Alors, d'après ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui est en train de faire l'amour. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se masturber aussi. Mais là, pardon, on a vu un couple
ne
qui
vous
a
excusez
été,
pas.
C'est un couple qui a été pétrifié en train de
faire la chose.
De s'accoupler, si vous voulez.
Tout à fait.
C'est plutôt ça la réponse.
C'est votre réponse.
C'est ma réponse.
Donc vous dites que c'est faux ce que je dis.
Oui, il se masturbait pas.
Vous avez perdu.
Eh bien, Stéphane, si vous voulez, Herculanum était quand même une ville assez grande pour qu'il y ait à la fois des gens qui fassent l'amour concrètement et d'autres qui, n'ayant pas la chance d'avoir un partenaire, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie, eh bien, se masturber. Tout simplement, il a été surnommé le masturbateur de Pompéi. Pardon, c'était à Pompéi et non pas Herculanum. Mais selon le vulcanologue Pier Paolo Petrone, la position des bras, c'est certainement mis ainsi de façon post-mortem en raison de l'effet de la chaleur.
Donc, on est d'accord, il ne se masturbait pas.
Écoutez, en tout
les
cas...
Les bras sont descendus par...
Nous l'avons appelé le masturbateur de Pompéi,
oui,
néanmoins.
Oui.
Question numéro 2, Clémentine, elle est pour vous. Sur la tombe d'Albert Einstein, il est écrit « Maintenant, je sais quelque chose que vous ne savez pas. Vrai ou faux ?»
Ah, c'est une belle devise. Ça serait plein d'esprit, ça lui ressemblerait assez. C'est en même temps... Bon, pff, oui, pourquoi pas. Je n'ai pas entendu cette histoire, mais oui.
Vous avez perdu.
Non, c'est une idée de Sébastien Bordenave, le créateur de ce quiz. C'est joli, ça. J'aime bien cette épitaphe. Peut-être que je le mettrai, moi.
Moi, je mettrais « J'étais ce que vous êtes, vous serez ce que je suis ».
Ah, le mec, il a déjà bossé son épitaphe.
Et quelle est-elle alors la vraie épitaphe de d'Einstein, on la connaît?
Einstein a été incinéré. Ses cendres ont été dispersées dans le fleuve Delaware aux États-Unis.
Il ne reste que son cerveau, j'aurais dû savoir ça.
En revanche, sur la tombe de Frank Sinatra, il est écrit « Le meilleur est à venir, the best is yet to come ». Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Memphis était la capitale de l'ancien empire égyptien. Les hivers étaient...
Je croyais que...
Moi aussi, Memphis, Tennessee.
Elvis Presley.
Est-ce que je peux aller au bout de la question?
Oui,
j'ai
envie
de vous gosser ainsi. Les hivers devaient être très certainement froids puisque Toutankhamon avait des gants de soie. Vrai ou faux? Les hivers étaient-ils rigoureux à Memphis?
Attendez.
Non pas Tennessee, mais
est-ce que
en Égypte.
Vous m'interrogez sur la froidure de Memphis ou alors vous m'interrogez sur le fait qu'il avait des gants en soie?
La question est sur, porte sur les gants de
parce
soie.
Parce qu'il avait des gants de soie, ça je le sais, il avait des gants de soie.
Vous avez gagné.
Vous le savez, d'autant mieux que vous les avez acquis en vente aux enchères,
exactement.
Effectivement, et vous les portez au quotidien. Retrouvés dans un coffret, ils sont en lin brodé de soie. Vous êtes arnaqué, il y a du lin dedans. Visible dans le nouveau grand musée égyptien du Caire, ils ont même été montrés à Paris en 2019 dans l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon.
Bon, on a bien ses caleçons, on peut avoir ses gants. Hein.
Ses caleçons, très bien. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Les Jeux Olympiques de Tokyo devaient avoir lieu l'année dernière. Ils se tiendront finalement cet été. Dans un épisode des Simpsons diffusé en 1988, mais présenté comme futuriste, des JO qui devaient avoir lieu à Tokyo sont également repoussés d'un an à cause d'un virus. Vrai ou faux?
Oh non, mais écoutez, non, les Simpsons, non, c'est une question d'histoire. Là.
Vous n'aimez pas les Simpsons,
mais
Clémentine?
Non,
ne
parce que j'ai
pas
le temps de regarder,
j'en
ai vu passer 3 épisodes que regardent mes gamins. Non, ça ne m'intéresse pas, les Simpsons, je ne regarde pas les Simpsons. Je sais que le père s'appelle Elmer, non? Ou Homer, un truc comme ça, c'est pas ça, non?
Non, Elmer, c'est un éléphant dans un...
Homer.
Voilà, c'est des donuts.
Donc, je n'en sais rien. Alors, vous me dites quoi? Oui, que dans un épisode, les JO doivent avoir lieu au Japon et qui sont annulés.
Et ils sont repoussés d'un an, vrai ou faux? À cause d'un virus?
À cause d'un virus? Non. J'en sais rien.
Vous dites non? Vous dites quoi?
Non, là, de toute façon, je suis pas dans une bonne veine. Je dis non.
Vous avez gagné!
C'est quand vous n'êtes pas dans une bonne veine que vous êtes la meilleure, Clémentine. C'est une bonne réponse. Non, c'est un manga très connu où ce scénario est écrit. Akira sort en dessin animé en 88. Il est question à plusieurs reprises des Jeux Olympiques de Tokyo organisés en 2020, mais dont le report est inévitable. Un personnage tient même un journal où il est écrit « L'OMS critique les mesures prises contre le virus. Coïncidence ?»
Incroyable.
Oui, je crois.
C'est curieux que ça m'ait échappé, cette information majeure
alors
dans un manga.
C'est
alors
historiquement
que vraiment,
les mangas sont les livres les plus vendus au monde, Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est autre chose que Marcel Proust.
Un des meilleurs amis de ma fille a même appris le japonais pour pouvoir les lire dans leur version originale dès qu'ils sortaient.
Ça a bien plus de saveur, surtout qu'on les lit à l'envers.
Ah, bah, bien sûr.
Question numéro 5.
C'est une question
qui va vous départager. Une question de rapidité, attention, on m'écoute jusqu'au bout avant de dire 1, 2 ou 3. Le 22 juillet 1962, la NASA lance la première sonde pour une mission de survol de la planète Vénus. 295 secondes après son lancement, sa destruction est ordonnée. 18 500 000 dollars partent en fumée en quelques secondes. Pour quelle raison? 3 propositions. À cause d'une faute de frappe. L'ordre de destruction a été formulé par un ordinateur alors que personne ne lui avait rien demandé. Ou 3. Parce que le carburant contenait 16% d'aluminium pulvérulent et 15% de polybutadiène acrylique, alors que c'était l'inverse qu'il fallait.
Moi, je dirais 2.
Moi, je dirais 3.
C'est la loose totale. C'est à cause d'une faute de frappe humaine. Un chiffre a été tapé en souligné alors qu'il fallait un tiret. Cet épisode dans l'histoire de la NASA a été baptisé le trait d'union le plus cher de l'histoire. 18 500 000 dollars. Je ne sais pas quel était le stagiaire préposé à taper ce code.
Et qu'est-il devenu? On aimerait
devenu
savoir. Ah, oui.
Certainement, il a
dû quitter... président des États-Unis, il s'appelle Donald Trump.
En tout cas, ça vous fait rire, mais c'est une épopée de la loose aujourd'hui dans le quiz, puisque nous avons une égalité. l'égalité dans la nullité.
C'est pas la
coup.
Grosse forme. Là.
Voilà.
Oui, enfin, je l'ai dit. Vous connaissiez la réponse, vous
mais moi, je connais toutes les réponses, mais évidemment,
vous avez
de ce
oui.
quiz.
Mais
moi, je suis trop vieille pour qu'on me pose des questions sur les Simpsons.
On me rappelle un peu perfidement en régie que la seule bonne réponse que vous avez donnée, c'était sur les Simpsons. Donc,
bah oui,
essayez de ne pas
voilà,
trop
c'était
les critiquer.
C'était le hasard, la loterie.
Bravo à tous les deux, si je puis
voilà.
m'exprimer ainsi.
Mais vous savez, on a compris maintenant, depuis le début de l'émission, c'est pas vraiment un quiz historique. Donc, il faut accepter que
oui,
c'est...
Mais moi, je suis fondamentalement optimiste. Hein. Je suis un peu comme Jack London. Je ne perds jamais espoir qu'on me pose des questions intéressantes qui contribuent à nous élever collectivement.
Et c'est un peu comme celui de Pompéi. C'est son moment, si vous voulez.
C'est son épectase pompéienne. C'est beau, ça.
Dans le truc de l'onaniste à Pompéi, vous allez le ressortir dans les dîners.
Oui.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, l'émission qui, chaque après-midi, vous raconte l'histoire, mais sans se la raconter, en réunissant trois personnages qui, pourtant, Mathieu, n'aurait jamais pu se croiser.
Et non, Stéphane, ils vivaient à des époques différentes, parfois des siècles les séparent, et pourtant, ils ont toujours un point commun. Aujourd'hui, honneur à ceux qui, un jour, ont osé changer totalement de métier. Vous-même, Stéphane, lassé de votre image un peu polissée, vous aviez tenté à un moment de tout plaquer pour devenir voyou au Luxembourg. Un sombre trafic de goodies à l'effigie de la Grande Duchesse, dans lequel, si j'ai bien compris, votre mamie servait de mule. Enfin, j'ai peut-être pas tout compris. Mais comme vous paniquiez à chaque contrôle de police...
22, v'là les flics.
Vous êtes très vite redevenu présentateur télé. Eux, au contraire, eh bien, on peut dire qu'ils ont réussi leur reconversion.
Oui, Mathieu, vous qui avez une imagination débordante. Après Léon Blum... Je vais vous raconter l'étonnant destin de Louis Jouvet, qui était pharmacien, avant de devenir l'immense comédien qu'il était. Destin étonnant, mais pas autant que celui du pape François, qui, on ne l'imagine pas, mais a eu une vie avant d'être pape.
Comme vous dites pudiquement, Stéphane, oui, il a eu une vie. Disons que le milieu de la night argentine des années 50 se souvient d'un François un poquito plus tactile qui est au Vatican. Il était...
Videur
de boîte.
Incroyable. Alors, sans oublier nos excellents chroniqueurs qui ont peut-être changé de vie aussi. Olivier Pouls est avec nous. Alors, on parle des légumes qu'on aurait dû oublier définitivement, mais qu'on a
réhabilité.
Bah, ils font aujourd'hui la joie des cuisiniers branchés et des vendeurs de légumes pour bobos. Vous savez, ces panais, autres topinambours et rutabaga dont plus personne ne voulait entendre parler. Eh bien, ils sont aujourd'hui plus que jamais dans notre cuisine. Pourquoi et lesquels et comment on les prépare, je vous dirai ça tout à l'heure.
Évidemment, Stéphane, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Chaque jour, l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, les expressions autour de la rate.
Oui, vous allez voir, on va bien se la dilater.
La rate, d'accord, oui. Très bien. Enfin, Stéphane...
J'ai la rate qui se dilate. Oui, je sais, j'ai des chansons
allez-y.
D'un autre temps.
Non, vous le tenez bien.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, l'oxypudeur, machin.
Ah, il le fait avec l'accent, lui.
Oui.
Oh, bravo.
Bah oui,
vous avez
mieux,
tous les talents. Enfin, Stéphane, je sais que c'est un de vos moments préférés de l'émission, mais ne lui dites pas trop, il commence à prendre la grosse tête. L'autre jour, il s'est quand même présenté comme...
La deuxième chose portugaise la plus connue au monde après Cristiano Ronaldo.
Doucement, David Castello Lopez. Doucement, c'est vrai qu'elle est bien, votre chronique.
Oui, aujourd'hui, je vais parler des origines des auberges de jeunesse, que j'ai fréquentées quand même pas mal de temps, avant d'en être un petit peu déçu, et j'en parlerai.
Ah, moi, j'en étais déçu tout de suite.
Ah, oui.
Je suis allé une fois, je ne suis pas revenu. Vous, Stéphane, est-ce que vous avez déjà fait un séjour
J'en ai fait souvent, oui, dans
c'est
ma jeunesse.
Dans votre jeunesse.
Oui. Hein, mais j'aimais bien.
Vous aimez bien la promiscuité, comme ça.
Bah, on faisait des rencontres. Hein,
La belle époque où on pouvait faire des rencontres sans masque. Oui. Tout de suite, découvrons l'itinéraire de Louis Jouvet, un comédien qui, vous allez voir, maîtrisait l'art du rebond.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes le 14 décembre 1923. Il y a foule ce soir-là à la Comédie des Champs-Élysées. Tout le gratin est venu assister à une nouvelle pièce, Noc ou le triomphe de la médecine que l'on dit étonnante. Sur scène, Louis Jouvet apparaît dans le rôle d'un médecin à peine maquillé, jouant des expressions de son visage derrière de petites lunettes cerclées de noir. Le public rit, applaudit, c'est un triomphe. Grâce à ce personnage de docteur, Louis Jouvet est sur le point de devenir une légende. C'est assez ironique quand on pense que pour faire plaisir à sa mère, l'acteur s'était au départ inscrit en école de pharmacie. Louis Jouvet naît la veille de Noël 1887 à Crozon dans le Finistère. Il n'a que 15 ans quand son père, qui est conducteur de travaux, meurt d'une violente blessure à la tête pendant une visite de chantier. Avec sa mère et ses deux grands frères, Edmond et Gustave, Louis emménage dans les Ardennes où habitent ses oncles, l'un pharmacien et l'autre médecin. Louis Jouvet est un jeune garçon rêveur et sensible. Au collège, il découvre le théâtre. C'est une révélation, mais sa mère et ses oncles refusent catégoriquement qu'il devienne comédien. Le théâtre est un métier honteux, lui sérine-t-on. Louis Jouvet n'a pas le choix, il deviendra pharmacien, comme son oncle. La mort dans l'âme, l'adolescent accepte cette voie toute tracée, ce qui ne lui convient pas, comme l'atteste l'extrait d'une lettre que le jeune Louis écrit à l'une de ses amies, qu'il appelle cousine. « Ce ne serait pas mon rêve, vous savez, cousine, de rester derrière un comptoir à attendre les loqueteux et les malingres de l'humanité. Ah non. Ah non, et pourtant si. » À 18 ans, Louis Jouvet intègre l'école de pharmacie de Paris. Il suit les cours et passe sagement les examens, mais le théâtre occupe tout son temps libre. Il assiste à autant de représentations que le permettent ses maigres économies et monte sur les planches dans différentes troupes amateurs. À plusieurs reprises, Louis Jouvet se présente au concours du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, mais il se fait à chaque fois recaler. C'est un comble quand on pense qu'au fait de sa carrière, il en deviendra l'un des plus célèbres professeurs. Mais avant cela, c'est donc en pharmacie qu'il joue le premier rôle. Louis Jouvet obtient son diplôme avec mention, s'il vous plaît. Il ne lui est pas très utile puisque la même année, le jeune homme est engagé comme régisseur général au Théâtre du Vieux Colombier, un centre d'art dramatique qui existe toujours, lancé par son ami qu'il a rencontré quelques années plus tôt, Jacques Copeau. L'aventure dure 9 ans, avec une longue interruption pendant la Première Guerre, alors que Louis Jouvet s'enrôle comme pharmacien volontaire, puis médecin auxiliaire sur le front. Il faut bien que ce diplôme de pharmacien serve à quelque chose. Au Vieux Colombier, Louis Jouvet est à la fois décorateur, machiniste, menuisier. Il apprend toutes les ficelles du métier. Mais c'est grâce à ses talents de metteur en scène et de comédien qu'il devient une célébrité. Engagé au Théâtre des Champs-Élysées en 1922, il met en scène la pièce « Knock ou le triomphe de la médecine » de Jules Romain. Louis Jouvet incarne le rôle principal, celui de Knock, un charlatan qui entourloupe ses patients avec un élixir soi-disant miraculeux. D'autant plus drôle pour le pharmacien qu'il est. Jouvet devient un spécialiste des rôles de médecin. Il reprendra le rôle de Knock plus de 2000 fois pendant plus de 30 ans et jouera régulièrement le sganarelle du médecin malgré lui de Molière. Peut-être un reste de ces années moroses où le comédien contrarié suivait des cours en école de pharmacie. À quoi ressemble-t-il d'ailleurs notre acteur ? Grand, le visage anguleux, Louis Jouvet a, si vous me permettez l'expression, une gueule. Mais c'est surtout la sonorité particulière de sa voix, sa diction inimitable qui marque le public. Et cette réplique culte qui est entrée dans l'histoire et qu'il reprend évidemment dans la deuxième adaptation cinématographique de Knock, sortie en 1951.
Ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille.
Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille ?
Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi.
Ça vous gratouille ou ça vous chatouille ? Lui, ça le chatouille parfois. La preuve. Alors qu'il est marié depuis 1912 avec Else Colin, ils auront d'ailleurs 3 enfants, Louis Jouvet aura de nombreuses liaisons extra-conjugales. Devenu une célébrité grâce au cinéma à partir des années 30, Louis Jouvet n'a aucun mal à séduire la gente féminine. Il faut dire que son palmarès cinématographique a de quoi impressionner. En tout, il joue dans plus de 30 films, dans plusieurs chefs-d'œuvre passés à la postérité, pour ne citer que Hôtel du Nord, aux côtés d'Arletty, La Marseillaise de Jean Renoir, ou encore Quai des Orfèvres d'Henri-Georges Clouzot. Comble du succès, en 1934, Louis Jouvet est nommé professeur au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. C'est un honneur. Pourtant, le professeur n'est pas tendre avec ses élèves. La classe Louis Jouvet, écrira la comédienne Wanda Kerien, ressemblait à une cage aux fauves dans laquelle le patron, tel un dompteur, maniait le fouet moral. Les encouragements et les compliments y étaient rarissimes. La joie d'y être reçu comme élève était de courte durée. Plutôt sympathique, n'est-ce pas ? La quasi-totalité de l'énergie de Louis Jouvet se concentre sur le théâtre de l'Athénée, dont il reprend la direction en 1934. Louis Jouvet met en scène des pièces à succès comme Amphitryon 38, La guerre de Troie n'aura pas lieu, ou encore La folle de Chaillot, toutes écrites par l'ami de Louis Jouvet, Jean Giraudoux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Louis Jouvet part avec la troupe du théâtre de l'Athénée pour une tournée en Amérique du Sud. C'est un triomphe, si bien qu'à son retour en 1944, le général de Gaulle lui propose le poste de directeur de la Comédie-Française. Ce n'est pas rien. Pourtant, Louis Jouvet refuse. Il préfère garder sa liberté. De Gaulle n'est pas rancunier puisqu'il le fait officier de la Légion d'honneur. Louis Jouvet n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Il épuise ses comédiens, les faisant répéter encore, encore et encore. D'accord, d'accord, le metteur en scène est impitoyable avec ceux qui l'entourent, mais il l'est surtout avec lui-même. Le 13 août 1951, Jouvet téléphone à un ami. « Je n'en sors pas de ce merdier. Je me casse le nez sur de ridicules problèmes de mise en scène que je devrais normalement résoudre en quelques heures, en quelques minutes. Je patauge, je nage, je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. » Ce qui lui arrive, c'est qu'il ne se repose quasiment jamais. Le 14 août 1951, Louis Jouvet dirige une répétition au théâtre de l'Athénée. Il est nerveux, impatient, rudoie ses comédiens. Quand soudain, il pâlit et chute sur le sol. Encore conscient, l'ancien pharmacien comprend qu'il a fait un infarctus. Mais c'est trop tard. Le 16 août au matin, Louis Jouvet quitte définitivement le théâtre du Monde, alors qu'aucun remède n'aura réussi à le relever.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Louis Jouvet, nous sommes avec Olivier Rony qui publie une biographie qui lui est consacrée. Bonjour Olivier Rony.
Bonjour.
On parle de Louis Jouvet. Stéphane, c'était passionnant cette histoire, mais peut-être qu'Olivier Rony a d'autres choses encore à nous révéler.
Et bien d'autres à nous dire.
Non, mais le récit était tout à fait sympathique et très bien mené.
Merci beaucoup.
Un bon point pour vous, Stéphane.
Olivier Rony, vous êtes donc, je dois le rappeler, puisque Mathieu l'a omis, vous êtes professeur de lettres.
Et bam, c'est parti,
vous
le
avez obtenu le grand prix de la critique de l'Académie.
Je le savais.
Pour votre biographie, Jules Romain ou l'Appel du Monde.
Bien sûr.
Jules Romain, dont vous êtes l'ayant droit, et Jules Romain, à qui l'on doit entre autres la pièce Knock, absolument, justement, qui a marqué la carrière de Louis Jouvet. Eh bien, c'est bien de Louis Jouvet dont on parle cet après-midi. Vous publiez une biographie apparaît dans quelques jours chez Gallimard. Ce qui semble clair dans le parcours de Louis Jouvet, c'est que s'il a été pharmacien dans ses jeunes années, ce n'était pas par vocation, mais plutôt par docilité envers sa mère et ses oncles. C'est sa famille qui lui a forcé la main au départ.
Sa famille, vous l'avez d'ailleurs très bien dit, le théâtre est un métier honteux, lui disaient sa mère et ses oncles, et il n'était pas question qu'il soit comédien. Alors, il a fait le dos rond, et il dit d'ailleurs dans un texte très amusant qu'il avait au fond de sa poche des galets tout ronds, justement, et tout doux, sur lesquels il passait la main, et il a fait la même chose, au fond, quelque sorte. Il s'est lui-même transformé en galet tout doux, il a fait le dos rond, il a dit « Oui, maman, je serai pharmacien, mais surtout pour aller à Paris ». Surtout pour aller à Paris.
Bah oui, c'est
parce que c'était là qu'il savait bien qu'il arriverait quand même à essayer de s'infiltrer dans le milieu littéraire, dans le milieu théâtral. C'est comme ça qu'il a voulu. Mais au fond, c'est un bon petit garçon, mais avec ce qu'on appelle la force d'inertie, en quelque sorte. Hein.
Est-ce que ses débuts dans le théâtre, il les fait un petit peu en secret, du coup
À quel moment sa mère
réalise qu'il fait du théâtre?
Elle a dû le savoir quand il a commencé à jouer au Théâtre des Arts, en 1911. Là, je pense qu'il ne l'a pas dit. Mais il avait changé l'orthographe de son nom. Il l'avait écrit EY.
Mais enfin, il a eu son diplôme de pharmacien,
ah,
on est bien d'accord.
Il a eu son diplôme avec mention bien en 1913. Oui. Il a mis du temps quand même. Hein. Il a mis plus de 6 ans, 6-7 ans pratiquement.
Enfin, il en était fier quand même.
Oui, il en était fier.
Oui.
Il en était fier et d'autant que dans ce milieu de théâtre de l'époque, des gens comme Dulin, des gens comme ses camarades n'étaient pas diplômés du tout, du tout, du tout. Il faisait figure un petit peu d'oiseau rare.
Mais il avait l'air de se prendre un petit peu au sérieux. On le voit après quand il est prof, notamment. Tout à fait conscience de sa valeur.
Je pense. Moi, je me suis toujours... Ça fait des années que je travaille sur Jouvet, que je rumine ma Jouvet-mania. Je crois qu'il aurait été un grand bonhomme dans d'autres métiers.
Est-ce qu'il était sympathique?
Ah, va savoir. Il était, je crois, très, très difficile à comprendre. Il y a une phrase, il y a un texte de Jules Romain que j'aurais dû apporter, qui paraissait dans les programmes de l'Athénée, où Jules Romain écrit que Jouvet était difficile dans beaucoup de sens du mot. Difficile à convaincre, difficile à séduire, difficile à aimer, et difficile pour lui-même. Il était dur avec les autres dans la mesure où il était très dur avec lui. Comme sont, je crois, beaucoup de gens de grande qualité.
Oui. Mais donc un petit sorte de tyran,
ouais,
quand même.
Un peu, il était un peu tyrannique. Vous savez, j'ai fréquenté dans ma petite carrière autour de Jules Romain un certain nombre de metteurs en scène et de comédiens qui ont monté du Jules Romain. Mais les bons, ils sont tyranniques, hein.
Oui, mais ce qui est bizarre, voilà un gentil garçon qui fait pharmacie pour faire plaisir à maman et à ses oncles, et qui ensuite devient une sorte de tyran sur les planches.
Mais attendez, oui, tyran, mais les gens qui ont travaillé avec lui lui sont reconnaissants admirablement de tout ce qu'il a, qu'il leur a apporté.
Parce qu'on cite toujours cette phrase d'une jeune comédienne qui disait « Maître, est-ce que je n'ai pas le trac ?» Et il lui aurait répondu « Vous verrez, mademoiselle, ça viendra avec le talent. »
Oui, mais il avait raison.
Oui, ça c'est vrai.
C'est vrai, il l'a dit. Oui,
il l'a dit vraiment.
Oui. Mais il en a dit des tas. Il en a dit des tas.
Mais le théâtre l'a jamais... Même quand il faisait des études de pharmacie... Il fréquentait tout un milieu, il allait...
Il jouait, il aimait ça,
il avait ça dans le sang, en fait.
Il s'était introduit dans un groupe de jeunes écrivains un peu anarchistes, qui s'appelait La Foire aux Chimères, et il jouait quelquefois deux ou trois fois dans le week-end, en matinée, en soirée, et le lendemain matin, il allait à la fac de pharmacie, le lundi. Donc il était possédé à l'idée de faire du théâtre, possédé. Voilà, il a rencontré Copeau qui, effectivement, lui
bien
a
sûr,
mis
et ça, voilà, comme on
complètement
l'a raconté,
le pied à l'étrier.
Ça a changé sa vie. En tout cas, j'invite tous ceux qui sont passionnés de théâtre et par la vie de Louis Jouvet à se procurer votre biographie, Louis Jouvet, qui paraît le 21 janvier prochain dans la collection Folio Biographie. Merci beaucoup, Olivier Rony, de nous avoir éclairé davantage.
De vous voir.
Ben oui, nous
et
aussi.
De vous rencontrer.
Ben voilà.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, historiquement vôtre, eh bien, évoque ces personnages de l'histoire qui ont connu une étonnante reconversion. Après Léon Blum et Louis Jouvet, vous nous racontez maintenant, Mathieu, l'histoire incroyable du pape François qui, avant d'être élu pape, a exercé un certain nombre de métiers et certains même assez étonnants.
Oui, une chronique à haut risque blasphématoire aujourd'hui, les amis. Par précaution, avant de commencer, nous allons donc asperger Stéphane Bern d'eau bénite. Afin de le prémunir d'éventuelles représailles divines que mon papier pourrait inspirer au Seigneur. D'ailleurs, si jamais Stéphane, le jour de votre trépas, Saint-Pierre voulait vous en tenir rigueur, vous lui direz que vous étiez simplement...
Au mauvais endroit, au mauvais moment.
Avec le con de Suisse, il comprendra. Et vous rejoindrez tranquillement Ricazaraï au paradis. Des précautions, d'ailleurs peut-être inutiles, car il n'y a finalement rien de honteux à avoir eu une vie avant d'être pape. On rappelle que certains animateurs télé très célèbres et aujourd'hui moralement irréprochables ont fait leur début dans l'animation devant des publics très ciblés.
Bonjour, je l'invite le pont, bonjour à tous.
Qui sommes-nous pour juger le passé des autres? Au contraire, l'année éprouvante qui vient de s'écouler a montré que pour survivre dans ce monde incertain, il ne fallait pas avoir peur de se réinventer. Il n'y a pas de saut métier et le pape François, vu sa fulgurante trajectoire professionnelle, en est la preuve. Tout commence le 17 décembre 1936 en Argentine. Oui, la rédaction d'Europe 1 présente ses excuses à Benjamin Biolay et à tous les Argentins mélomènes. Suite à de nouvelles restrictions budgétaires, il a été décidé que nous n'utiliserons plus qu'une seule musique pour tout le continent sud-américain, et c'est la mexicaine. Bref, c'est le 17 décembre 36, soit 33 jours après la naissance de Stéphane Bern, que vient au monde, à Buenos Aires, celui qui était prédestiné à être un pape plus drôle que les autres, puisqu'il porte les mêmes initiales que Jean-Marie Bigard, JMB, Jorge Mario Bergoglio, âgé aujourd'hui de 84 ans. Il est le 266e pape. Les parents du petit Jorge sont des immigrés italiens. Et durant son adolescence, il se montre assez conforme à l'image que Nicole Croisi avait donnée de l'italien, à savoir qu'il est gay lorsqu'il sait qu'il aura de l'amour et du vin, même de messe. En effet, à 13 ans, Jorge n'a pas encore rencontré Jésus, mais il a rencontré Amalia. Il est très amoureux, romantique, il lui envoie, non pas, comme c'est l'usage chez les jeunes aujourd'hui, un dick pic sur Snapchat, mais un mignon petit dessin sur papier canson représentant une maisonnette avec un chemin et des volets bleus, avec cette légende « Voici Amalia, notre maison, lorsque nous serons mariés ». Alors oui, je sais ce que vous dites, même sans dick pic, Jorge semble a priori un peu chaud du slip pour envisager la carrière ecclésiastique. Et c'est exactement ce que se disent les parents d'Amalia qui découvrent le dessin, crient au scandale et interdisent aux ados de se revoir. Jésus, lui, est dispo, ses parents sont moins cul-serrés que ceux d'Amalia. Jorge se dit pourquoi pas, il l'annonce d'ailleurs à Amalia, je cite « Si je ne peux pas t'aimer et t'épouser, je deviendrai curé ». Voilà un homme de parole. À 17 ans, tel Ignace de Loyola, que j'ai toujours tendance à confondre avec Ladislas de Hoyos, et finalement, oui, il a une révélation et rejoint les jésuites après le séminaire et le noviciat, ou l'initiation, si vous voulez, initiation où l'on apprend les éléments structurels fondamentaux du catholicisme, comme la transsubstantiation, à savoir que le corps du Christ est partout, dans l'hostie, dans le vin.
C'est pour qui la grosse friandise?
Et même dans les friandises du curé. Aimons-nous les uns dans les autres. Les uns les autres. Amen. Mais voilà! Jorge n'est pas un jésuite lambda, on va dire. Entre deux génuflexions devant la Vierge Marie de l'Eglésia San Pedro de González, vous savez ce qu'il fait, Stéphane?
Il se déguise en femme.
Non, quand même pas. Il suit des études de chimie. Et pour les financer, pensez-vous qu'il bosserait au McDo, comme tout le monde, où il aurait pu bénir les nuggets? Non. Ayant été doté par Dame Nature d'un physique imposant et d'une musculature qui n'a rien à envier à David Castello-Lopez, qui au même âge était déjà
15 fois champion du monde de hockey sur gazon.
Jorge, notre pape François, devient videur dans une boîte de nuit de Cordoba. La banana loca, la banane folle, est alors un des hauts lieux de la nuit argentine. On imagine assez mal ce que ça devait donner le samedi soir sur le trottoir à l'entrée avec Jorge derrière la corde, son listing à la main lorsqu'il devait appliquer les consignes strictes de sélection sans renier sa foi chrétienne. Mon frère, tu es ivre, je ne peux malheureusement pas te laisser pénétrer en ce lieu de bamboche. Sans doute as-tu assisté aux noces de Cana avant de prendre le bus pour arriver jusqu'ici, et peut-être y as-tu abusé du jus de la vigne. Mais maintenant tu dois... Oh putain, madre, il vient de dégobiller sur mes Weston. Enrique, Octavio, virez-moi ce clodo. Suivant.
Bonjour, c'est Stéphane Bern.
Santo Stefano de Bernas, mais bien sûr, votre nom est sur la liste, on a déjà fait ouvrir le champagne. Votre ami Monsieur Klaus Barbie vous attend à votre table dans le carré VIP. Ah, Cordoba by night dans les années 50, toute une époque. Bien vite, cependant, Jorge délaisse le beau métier de videur pour devenir testeur en laboratoire des tests portant sur la nourriture. C'est à lui qu'on devrait notamment une des plus belles inventions de l'industrie agroalimentaire, la languette sous le flambi. Mais je ne m'étends pas là-dessus, ça relève de la sphère de compétences de David, qui avec ça te fait au moins 8 minutes. Décidément, en quête d'expérience ou simplement de thunes, celui qui deviendra le guide de tous les catholiques a également été homme de ménage dans une usine locale, prémisse du grand coup de balai qu'il donnera plus tard au Vatican, car on rappelle Stéphane, ce goût du propre qu'il a cultivé en briquant les parquets des haciendas bourgeoises de Palermo va ressurgir une fois élu pape, puisqu'il décidera de javeliser la curie, lui reprochant d'être atteinte de 15 maladies, dont je cite « l'Alzheimer spirituel, la vanité, le commérage, le visage lugubre, la maladie du profit mondain et des exhibitionnismes ». Décapant pape, qui a tout de suite annoncé la couleur dès le soir de son élection. Élection plus mystérieuse que celle des Miss France d'ailleurs, puisque le processus n'est pas filmé. Les cardinaux passent-ils un test de culture générale eux aussi? Doivent-ils défiler en bikini devant Alain Delon? On ne le saura jamais. Toujours est-il qu'un détail aura dû nous alerter sur la nature radicalement différente, voire révolutionnaire, de ce nouveau pape. Stéphane, le soir de son élection, il fut le premier pape à se présenter au balcon du Vatican, place Saint-Pierre.
Avec à ses côtés... son amant.
Non, ça c'est la prochaine étape. Non, dans un simple habit blanc, la couleur de la pureté et de Monsieur Propre, forcément quand on fait le compte des métiers exercés par le pape François, la question se pose, va-t-il rester pape longtemps ou bien va-t-il être chassé sur LinkedIn pour un nouveau poste mieux payé ou décidera-t-il de tout plaquer pour se remettre au tango, danse pour laquelle il avait un don naturel, paraît-il. Ça sortait de moi, raconte-t-il dans une interview, ou se consacrera-t-il à son autre job d'influenceur sur Instagram, 7,6 millions d'abonnés, Nabila peut aller se rhabiller. 7,6 millions de followers, parmi lesquels on ne compte pas, et c'est choquant,
si,
Stéphane
si.
Bern.
Si,
ah non, j'ai vérifié Stéphane.
Non,
j'ai un seul ami qui suit le pape François, c'est Jérôme Commandeur, l'humoriste.
Non,
je
mais,
ne sais pas trop pour quelle
sur
raison.
Instagram. Moi, je le suis sur Twitter.
Eh bien, vous ne le suivez pas sur Instagram. Que se passe-t-il, frère Bern?
Je ne vais pas sur Instagram.
Vous, jadis si pieux, je prie que vous ayez encore la foi.
J'adore les foies de vous.
C'est déjà ça, Stéphane. C'est déjà un bon début pour
Attendez,
vous rapprocher
je vais
de Dieu.
Suivre, alors,
suivez-le tout de suite.
Oh, je vous bénis, Mathieu Noël.
Ben, ça ne compte pas, vous n'êtes pas très pieux, visiblement.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'émission qui dépoussière l'histoire continue avec David Castello-Lopez. Chaque jour, David, l'origine d'un objet, d'une pratique, d'une tradition, elle a l'origine d'un lieu.
Tout à fait, c'est les auberges de jeunesse. Les auberges de jeunesse qui sont vraiment des endroits où on va pour rencontrer des gens au pluriel. Mais en fait, on rencontre toujours la même personne à chaque fois. Alors bien sûr, cette personne, elle s'incarne dans des visages qui peuvent être différents. Ça peut être une fille maigre avec des dreads, un garçon israélien avec des gros muscles qui décompresse après son service militaire. Ça peut être un intermittent du spectacle qui dépense ses indemnités. Mais au fond, c'est la même personne. Et cette personne, elle ne dit que deux types de choses, à savoir un... La semaine dernière, je suis allé dans telle ville, la nourriture était très mauvaise, mais les gens étaient hyper sympas. Et deux, franchement, la société de consommation me déplaît, je n'apprécie guère ses excès. Tous les gens qui sont dans des auberges de jeunesse, ils disent ça tout le temps, c'est un peu les mêmes types de personnes. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai cessé d'aller dans des auberges de jeunesse. Et la seconde, c'est que c'est quoi une auberge de jeunesse, en fait? Eh ben, c'est juste un hôtel de merde. Voilà, c'est vraiment
c'est
ça.
Moins cher, c'est un hôtel moins cher.
Voilà, exactement, moins cher. Il n'empêche, je vais quand même vous dire d'où ça vient, parce que ça m'intéresse et qu'en plus, je suis payé pour ça. Les auberges de jeunesse, ça vient d'Allemagne. Et franchement, moi, plus je connais les Allemands, plus je trouve que c'est vraiment des gens super. Et alors, vraiment, alors, depuis qu'ils ont cessé d'être nazis, je veux dire, ils n'ont juste plus aucun défaut, quoi. C'est insupportable. Voilà.
Ce petit léger défaut.
Léger défaut. Et maintenant, voilà. Et en plus, ils ont inventé les auberges de jeunesse. Les auberges de jeunesse, elles ont été inventées par un monsieur qui s'appelait Richard Sherman. Richard, il était instituteur. Et c'était un instituteur qui aimait bien faire des randonnées de plusieurs jours avec ses élèves. Et un jour, en 1909, il faisait une randonnée, justement. Et il y a eu une grosse tempête. Alors, Richard, il a demandé à un fermier de l'héberger, lui et ses élèves, dans une grange. Et le fermier lui a dit « Non, ça me saoule, en fait. Je ne vais pas t'héberger, toi et tes enfants. » Et finalement, Richard et ses élèves, ils ont trouvé refuge dans une école. Ils ont poussé les tables et ils ont passé la nuit en dormant sur du foin que le fermier leur avait donné. Sans doute parce qu'il se sentait peut-être un peu coupable de ne pas les avoir hébergés lui-même. Et là, Richard, il s'est dit que ce serait cool qu'il y ait des endroits où les jeunes puissent dormir quand ils font des randonnées de plusieurs jours, des sortes de refuges pour jeunes, si vous voulez. Il a pitché son idée à plein de gens en Allemagne qui lui ont dit « Grave, nous on te soutient à 100% tellement ton idée elle est bonne ». Il a rassemblé l'argent nécessaire et en 1912, il a ouvert la première auberge de jeunesse de l'histoire du monde dans le château d'Altena en Allemagne, qui existe toujours. Les chambres originelles, ce sont des musées maintenant, donc on peut y aller si ça vous intéresse. Ouais. Il a aussi voyagé un petit peu partout pour développer son idée et la vendre. Et ça a eu un succès assez immédiat dans le monde entier. Alors, pendant le Troisième Reich, Richard, lui, il a eu quelques problèmes, justement, avec les nazis. Ah. Apparemment, il a d'abord accepté d'affilier ses auberges de jeunesse aux jeunesses hitlériennes.
Ah, ça, c'était pas la bonne idée.
Voilà. Oui. Mais à un moment, il s'est brouillé avec les nazis pour des raisons obscures et il a dû se cacher. Alors, pourquoi est-ce que je suis un petit peu flou dans ce que je
Peut-on
dis
Peut-on vraiment se brouiller avec les nazis pour des raisons obscures ou est-ce que la raison ne coule pas de source?
Ne coule pas de source, c'est que je ne suis. En fait, ils n'aiment pas qu'on soit moins nazis que les nazis, c'est ça. Voilà. Je suis quand même un tout petit peu flou dans ce que je raconte là. Et si je suis flou, c'est que ce que je dis, ça vient. En fait, c'est comme ça que c'est décrit dans la seule source fiable que j'ai trouvé sur l'histoire de Richard, source qui en plus est en allemand, hein, et je vous l'avoue, j'avais fait un bel effort pour apprendre l'allemand pendant l'occupation, mais aujourd'hui, je suis un petit peu rouillé. Voilà, quoi qu'il en soit, depuis 1932, il y a une association des auberges de jeunesse dans laquelle il y a aujourd'hui 4000 auberges, sans compter bien sûr les milliers d'autres qui ne sont pas dans l'association. Richard, lui, il est mort en 1961, mais je pense qu'il n'aurait pas trop kiffé ce que sont devenues les auberges de jeunesse aujourd'hui, parce que je ne pense pas qu'il avait prévu que 100 ans plus tard, ce serait devenu un repère de gens qui disent en boucle « Attends, mais moi, je vais te dire un truc, je veux te dire le capitalisme, c'est le cancer de la société, quoi !» J'en ai marre, voilà, c'est ces gens-là qui m'énervent.
Merci
qui
beaucoup,
vous aussi, visiblement.
David Castillo-Lopez. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Olivier Pouls arrive pour nous parler des légumes oubliés, à juste titre selon Stéphane. Nous verrons ce qui sont ces légumes et d'où viennent-ils.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est un truc pour Bobo, nous disait-il hors antenne. Stéphane nous parlait des légumes oubliés. Olivier Pouls, vous nous racontez le destin de ces légumes, effectivement, qu'on avait oubliés, qu'on a ressortis un petit peu des tiroirs.
Ben c'est vrai qu'il y a deux camps aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux dans le même, c'est-à-dire dans le camp de ceux qui pensent que les légumes oubliés ont bien fait d'être oubliés.
Moi, je suis dans le camp de ceux qui s'en foutent. Ouais. C'est-à-dire que s'ils sont bien cuisinés, effectivement, dans les restos un peu à vocation gastronomique, ça peut être très bon, leur tabaga, mais est-ce que c'est forcément meilleur qu'une pomme de terre? Je ne suis pas sûr.
Bon, alors, il y en a...
Pardon, mais topinambour et rutabaga, c'était la nourriture des gens pendant l'occupation.
C'est ce qui a fait qu'en réalité, ces légumes ont disparu de la circulation, et on peut le comprendre pendant quelques années.
C'est des mauvais souvenirs.
Ce n'est pas des très bons souvenirs. Et pourquoi? Parce que pendant la guerre, rutabaga ou topinambour n'étaient pas réquisitionnés, contrairement aux pommes de terre, et donc on trouvait en plus grande abondance, on va dire, des rutabagas et des topinambours. Mais vous comprenez que toute la génération qui était contrainte à un moment ou à un autre de se nourrir de ces légumes-là n'ont plus voulu les voir pendant de nombreuses années. Et depuis, on va dire, une quinzaine d'années, des chefs et des maraîchers surtout se sont mis en tête de réhabiliter ces légumes. C'est vrai je pense qu'un certain nombre de chefs avaient un peu fait le tour de ce qu'on trouvait. On avait ras-le-bol de ne faire que du poireau, des carottes classiques et du chou-fleur, et ils sont plonger avec des maraîchers justement dans l'histoire de ce qu'étaient les légumes un peu plus anciens pour essayer de créer de la nouveauté dans la cuisine avec des choses anciennes. Alors le topinambour par exemple, que moi personnellement j'aime assez, vous savez, c'est un légume qui a un petit goût d'artichaut. Quand il est bien cuisiné, franchement, c'est délicieux. C'est un légume qui est arrivé en France au XVIIe siècle, qui a eu d'ailleurs un petit peu son heure de gloire à ce moment-là, très facile à cultiver et que moi, j'aime beaucoup. Alors, le rutabaga, c'est un petit peu différent en termes de goût. Le rutabaga, ça ressemblerait plutôt à une espèce de navet. C'est un petit peu plus piquant. Mmh. D'ailleurs, on l'appelle le navet de Suède également. Et c'est arrivé en Europe au XVIIe siècle. On en mangeait beaucoup. Puis toute la déclinaison des betteraves qu'on commence à revoir également sur les marchés, les betteraves de toutes les couleurs.
Vous n'aimez pas non plus la betterave.
Les yeux au ciel. Ah, moi, j'adore ça. Mais probablement parce que vous avez des images de betteraves de la cantine où elle n'était pas bien cuite, elle restait dans son jus de cuisson, c'était vraiment pas terrible. Mais franchement, je vous ferai un jour des betteraves, notamment tout simplement cuites au feu de bois, ou à la cendre, comme des pommes de terre, c'est absolument délicieux. Mais là, je vais vous donner une recette très facile de cocotte de légumes anciens au miel et jus d'orange. Donc vous achetez 1 kilo, 1,5 kilo de ces légumes, topinambours, rutabaga, des crônes, par exemple, des panais, c'est qui est un cousin de la
carotte. Les crônes, c'est les biscornus, on dirait des légumes d'Harry Potter.
Voilà, c'est ça, c'est des petits légumes, c'est un petit côté croquant qui est assez sympathique. Le cerfeuil tubéreux aussi, qu'on retrouve beaucoup en ce moment sur les marchés. Donc vous allez rajouter à ça 2 oignons, il vous faut 1 cuillère à soupe de miel, 10 centilitres de jus d'orange et quelques branches d'estragon. Vous allez éplucher ces légumes, les couper grossièrement, les faire revenir dans un petit peu de matière grasse, de l'huile d'olive par exemple. Dans une grande cocotte, vous rajoutez vos 10 centilitres de jus d'orange, une belle cuillère de miel, sel, poivre, vous fermez la cocotte et vous oubliez ça au four pendant 45-50 minutes dans un four à 160 degrés.
Je sens que Stéphane, il serait parti pour l'oublier complètement.
Ah, moi, je l'oublierais sur le feu.
Voilà,
ou...
Mais non, je vous garantis que d'abord que c'est très bon pour la santé, puis vous ouvrez la cocotte, vous rajoutez votre estragon. C'est très bon pour la santé, ce sont des légumes pleins de fibres, ce sont des légumes d'hiver, puisque la grande majorité de ces légumes sont des légumes racines. Et la bonne nouvelle, Stéphane, c'est que dans quelques semaines maintenant, le printemps va arriver. Donc, place nette, et puis on retrouvera les légumes d'été qui, à mon avis, vous conviennent un peu mieux, peut-être.
Non, mais tout va bien. Moi, j'aime bien le chou, par exemple, en hiver.
Bah, c'est délicieux, le chou.
Ouais, c'est très bon.
Et là aussi, il y a plein de variétés de choux aujourd'hui qu'on trouve. Le chou paumé, le chou kale, etc. Exactement. Il y a de quoi
faire. Vous n'êtes pas bobo. Hein.
Le chou de Bruxelles.
Oui. Ah, voilà.
Alors, ça, je suis moins fanatique.
Ah bon ah, vous n'aimez pas le chou de Bruxelles?
Non, mais ça, c'est souvenir de cantine. J'aime pas trop le chou de Bruxelles.
Très bien. Bah, merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur Europe 1.fr.
Oui, les recettes les meilleures comme les moins réussies, exactement. Elles sont toutes sur Europe 1.fr. Stéphane Bern, vous êtes notre guide un peu dans cette émission.
Oui.
Chaque jour, l'origine d'une expression, vous avez le mot de la fin. Et aujourd'hui, les expressions autour de la rate.
Oui, on parlait de pommes de terre. Et de...
Ça vous a donné une idée.
La rate du Touquet. Non, c'est une autre rate dont j'aimerais vous parler. C'est celle que vous avez...
Savez-vous d'ailleurs, vous savez où elle est?
Oui, là où vous avez la main.
Là où j'ai la main, elle est comme l'appendicite. Non, c'est plus bas. Pardon.
Oui.
Je ne sais pas.
Enfin, écoutez, on ne va pas ouvrir le corps humain non plus. On l'a quelque part.
En bas à gauche. C'est en dessous des poumons, mais après, moi, je ne saurais vraiment pas dire.
Très bien. En bas à gauche.
C'est quelque part en bas à gauche.
Heureusement que l'émission Médecine d'Europe 1, c'est avant nous.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il est indéniablement la caution littéraire et culturelle de notre émission.
Demain est un autre jour, comme disait Scarlett O'Hara.
Mais quelle culture ! Stéphane Bern nous présente le mot de la fin chaque jour, l'histoire d'une expression. Aujourd'hui, les expressions à base de rate.
Oui, la rate. On n'a pas encore parlé de la rate, historiquement.
C'est étonnant, oui.
C'est une injustice que je voulais aujourd'hui réparer. Alors, loin de moi, l'idée, vous l'avez souligné, mon cher Mathieu, l'envie de concurrencer le docteur Jimmy Mohamed, qui officie juste avant nous dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez, sur Europe 1, mais je voulais rendre absolument cet hommage mérité à la rate.
Alors moi, je connais évidemment l'expression « j'ai la rate qui se dilate », Olivier Pouls peut même la chanter.
« J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie, qui n'est pas droit, j'ai les côtes bien trop hautes, le sternum qui se dégomme. »
Qui
mon Dieu, c'est embête. Ouvrard, je crois.
Gaston Ouvrard, absolument.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine.
Visiblement, c'est toute l'enfance de Louis Boulle qui remonte à la surface.
C'est un exercice de style, vous voyez. Mais oui, on doit la rate de belles expressions. Prenez par exemple courir comme un dératé. Durant l'Antiquité, on était persuadé que la rate était une gêne pour la course. Ainsi, celui à qui on avait ôté la rate pouvait ensuite courir comme un dératé. On lui avait enlevé la rate, donc il pouvait courir plus facilement.
Vite.
Le problème, c'est qu'on a longtemps cru la rate inutile. En 600 après Jésus-Christ, une hypothèse sur sa fonction prend de l'ampleur. L'ecclésiaste Isidore de Séville affirme « la rate est là pour le rire ». Dès lors, si on la retire, on perd le sens de l'humour. Et une nouvelle expression va naître pour ceux qui l'ont encore et qui peuvent donc rire à gorge déployée. On dit qu'il se dilate la rate. Au XIVe siècle, on abandonne cette croyance pour une nouvelle. Le chirurgien du roi Philippe le Bel l'affirme, selon Henri de Mondeville, la rate est le réceptacle de la mélancolie. Et d'ailleurs, le nom latin de la rate est spleen, en ancien français est spleen. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd pour nos cousins anglais, ils récupéreront ce mot pour créer le fameux spleen, le spleen des romantiques, vous voyez. Le spleen est donc un anglicisme d'origine française qui a eu ses lettres de noblesse grâce à Voltaire et Baudelaire. Alors aujourd'hui, ayons une petite pensée pour la rate en vous la souhaitant dilatée, mais pas trop quand même. Il faut raison garder.
Historiquement vôtre, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh non. Et oui, c'est donc le moment toujours un peu gênant où je tente de vous vendre le programme de demain et où Stéphane, qui n'a visiblement pas suivi cette masterclass que je lui avais pourtant offerte à l'Acteur Studio, fait semblant de s'enthousiasmer devant ce programme en disant
« Oh là là, vivement demain !»
Allez, on va essayer de faire mieux aujourd'hui, Stéphane. Alors, qu'est-ce qui nous attend demain ?
Demain, 22 v'là les flics.
Ah, oui.
On réunit trois grands flics de l'histoire. Alphonse Bertillon, le père de la police scientifique, Roger Borniche, spécialisé dans le grand banditisme.
Et Olivier Marchal aussi, qui sera avec nous en studio et à qui je brosserai le portrait.
Oui, oui, brosser, mais dans le bon sens.
Vous me connaissez.
Hâte de découvrir tout ça demain. Alors, à demain, Mathieu.
À demain, mon cher Stéphane.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.